Hello, moi c'est Doris, bienvenue sur mon podcast Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est le podcast où je vais à la rencontre des personnes qui ont pris un virage à 180 ou qui ont un parcours de vie atypique et qui ont décidé d'entreprendre. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Guillaume. Guillaume est passé de cheminot à photographe. Rien que ça, je crois que ça résume bien le pourquoi j'ai voulu l'interviewer. Guillaume a réussi à allier passion, travail et indépendance. Néanmoins, l'entrepreneuriat n'est pas un monde fait de paillettes, ni d'argent qui tombe tout seul du ciel. Et ce qui me plaît de partager à travers ce podcast, c'est avant tout la réalité. Alors Guillaume est l'invité parfait pour ça, et je le remercie d'avoir partagé sa réalité, sans langue de bois, avec beaucoup d'honnêteté et de transparence. Allez, je ne vous en dis pas plus, et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Guillaume, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais ?
Oui, bien sûr. Donc je suis Guillaume Chouéka, je suis photographe sur Nantes. Je rayonne un petit peu sur la région et parfois un peu plus loin quand les entreprises m'y emmènent. Et donc je suis photographe essentiellement pour les entreprises. Je vais réaliser des reportages, je vais réaliser des portraits et des reportages événementiels. C'est ce que je fais beaucoup en ce moment. Au moment où on enregistre cet épisode, on est dans une période où il y a beaucoup d'événementiels d'entreprise. Et donc je navigue beaucoup de buffet en buffet pour prendre en photo les bons moments des entreprises.
Okay. Voilà. Donc tu rayonnes sur quelle région ? Enfin, tu vas jusqu'où ?
On va dire qu'à 70-80% je suis sur Nantes.
Okay.
Il m'arrive des fois qu'on m'envoie vraiment sur la partie Grand Ouest. Le plus loin qu'on m'emmène, c'est Quimper.
Ouais.
Voilà, quand même.
Ouais.
Et depuis peu, je peux un peu me la péter, mais je monte sur la capitale.
Okay.
Voilà.
Et t'es photographe depuis combien de temps ?
Je suis photographe depuis 2019.
Okay.
En fait, sur le papier, grand malheur, j'ai eu de faire ça à cause du Covid, j'ai pas eu d'aide, parce que j'avais créé mon statut en 2018, mais
d'accord,
je me suis lancé un an après en vrai.
Ouais.
D'un point de vue juridique, j'ai eu mes premiers encaissements en 2019, donc ce qui fait que j'ai eu le droit à aucune aide Covid. Mais voilà, juridiquement, je suis créé depuis 2018.
Ouais.
Réellement, j'ai commencé à photographier des entreprises en août 2019.
En août 2019.
Voilà.
Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as eu ce temps de latence entre le moment où tu as créé et le moment où ton activité a démarré ?
Donc 2018, ça faisait déjà à peu près un an que j'avais un mal-être au travail qui ne trouvait pas d'oreille au sein de l'entreprise en tout
ouais.
cas. Et voilà, j'avais commencé un peu à créer mon statut en double activité. Je m'étais dit ça me ferait du bien un petit peu de, en dehors de mes trains, parce que
oui,
j'étais à la SNCF,
oui,
en dehors de mes trains, d'aller faire des petits shootings à droite, à gauche.
D'accord.
Peut-être que ça me donnerait une espèce de soupape d'oxygène. Et
ouais,
j'avais créé ce statut et puis finalement j'ai rien fait. Et la cocotte minute a explosé en 2019. Et là, en l'espace de 10 jours, je suis passé de salarié à indépendant, mais d'un coup, d'un seul. Et d'où le fait que j'ai commencé vraiment en 2019.
Bah, du coup, je te propose qu'on remonte un peu plus
ouais,
loin. Donc là, aujourd'hui, tu es photographe, mais donc, tu n'as pas toujours été photographe.
Mmh.
Quel a été ton parcours ? Au début, tu as travaillé à la SNCF. Est-ce que
ouais,
tu as travaillé ailleurs avant ? Enfin, voilà, comment t'es arrivé à ça ?
En fait, j'ai un peu navigué. J'ai pas mal navigué. Quand j'étais petit, je voulais être conducteur de train. J'étais fasciné par les trains quand j'étais
ouais,
petit. Plus largement, les transports.
Okay.
Je sais pas pourquoi, c'était plus accessible pour moi d'être conducteur de train que pilote d'avion.
Ok.
Voilà, j'avais orienté mes études en conséquence. Et en gros, il faut s'y connaître. En termes d'études, il n'y a pas vraiment d'études pour être conducteur de train,
mmh,
mais il vaut mieux être dans la maintenance et l'électricité.
Okay.
Ça correspond à la mécanique des trains et le fait qu'ils soient électriques. Et j'avais fait ça, et puis finalement, en sortant, je faisais partie d'un groupe de musique que
ouais,
je voulais pas quitter à ce moment-là. Et du coup, je m'étais dit, ouais, non, la vie de conducteur de train, c'est un peu particulier quand même. On est quasiment jamais chez soi. Il y a jamais
ouais,
les week-ends, on peut oublier les jours fériés, les vacances, tout ça. Et donc, je m'étais dit, ça voudrait dire que je vois plus trop ma famille ni mes potes. Et surtout, je serais obligé d'arrêter la musique. Et puis finalement, à 20 ans, je suis quand même rentré à la SNCF, mais à la maintenance des trains. Voilà, j'ai trouvé un compromis.
Ouais,
j'étais proche des trains. Et puis, j'y ai passé 5 ans. Et puis pendant ces 5 ans, finalement, le groupe de musique s'est pas arrêté, mais moi, j'ai arrêté parce qu'on n'avait pas le même engagement. J'avais conscience que j'étais avec des passionnés et notamment deux frères, deux amis qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour la musique et pas moi en fait. Enfin,
ouais,
moi j'étais passionné, j'adorais
ouais,
ce que je voulais aller loin, mais pas au même niveau qu'eux. Il y avait une différence d'engagement et du coup j'ai préféré dire bon écoutez les gars, je vous laisse faire, moi je peux pas suivre. Et donc j'ai arrêté le groupe de musique et je me suis retrouvé un peu libre de faire ce que je voulais de mes week-ends. Et parallèlement, l'envie d'être à bord des trains m'avait grandement rattrapé. Heureusement, je ne m'étais pas mis en tant que conducteur de train, parce que ce que j'ai découvert entre-temps aussi, c'est que j'adorais le contact avec les gens. Et donc, c'est naturellement qu'en 2014, je suis arrivé vers le poste, enfin, je me suis réorienté en interne, moyennant des entretiens, des concours et une formation de 6 mois.
Ouais, quand même.
Voilà, pour devenir contrôleur à bord des trains, en interne appelé agent d'accompagnement des trains.
Ah, voilà. On ne connaît pas ce nom-là.
Non, on ne connaît pas. Et en fait, c'est, enfin, petite parenthèse SNCF, c'est hyper important parce qu'en fait, l'homme à la casquette ou la femme au... je ne sais plus comment on appelle ce couvre-chef féminin qu'on a. Mais en fait, on les voit comme contrôleurs, mais en réalité, ils ont 21 missions à bord. Et dans les 21, il y en a une qui est le contrôle, mais il y en a 20 autres, notamment qui sont liées à la sécurité.
Okay.
Et on est bien content de les avoir, ces petits gens à bord des trains, quand il y a des accidents que j'ai connus.
Ouais.
Et que c'est moi, par exemple, qui, par deux fois dans ma carrière, ai dû prendre la relève de la couverture de sécurité du train, aller à la reconnaissance de ce qu'on a tapé. C'est agent d'accompagnement des trains. C'est un poste de sécurité, en fait. C'est hyper important.
Toi, voilà. Pas aller dans l'optique de contrôler les gens,
non.
Mais vraiment de rechercher ce lien avec les voyageurs.
Le lien avec les voyageurs et cette petite adrénaline de, c'est pas que je le cherchais, bon j'étais chat noir, hein, mais c'est pas que je le cherchais, mais j'aimais bien les aléas, parce que après je me retrouvais à, bon on est tous dans la merde, des fois jusqu'à 500 voire plus voyageurs, et de se dire, bon ok, le challenge c'est que là on est dans une situation très compliquée, mais il va falloir que tout le monde rentre à bon port et ne reste pas à quai, genre une fois on est arrivé à 2h du mat à Nantes, que tout le monde ait un taxi, un transport, enfin que voilà,
une bonne solution,
que malgré tout ce qui s'est passé, il y ait une solution pour tout le monde. Ça c'est un challenge que j'aimais bien, quoi.
Et alors, comment t'as vécu ce passage de la maintenance à agent d'accompagnement?
Au début super bien, d'autant plus que l'entreprise était déjà en transition, mais je pense que je m'étais un peu mis des œillères pour pas le voir. Mais c'était encore un métier où on pouvait avoir du social à bord. Aujourd'hui, on peut avoir du social à bord de train, mais en fait, le métier de contrôleur de train, pour ceux qui prennent le train régulièrement, l'ont certainement remarqué. Avant, il avait une pince, il faisait des trous dans un billet.
Oui.
Et maintenant, il n'y a plus de pince. C'est du numérique, 100%.
Oui, complètement, ouais.
Et donc, la magie de notre monde moderne fait que quand c'est numérique, il y a des tableaux Excel derrière. Et donc, qui dit tableau Excel, dit élément chiffrable pour un chef d'équipe ou un chef d'établissement. Et donc, il commençait à avoir des objectifs et des surveillances qui étaient faites sur le travail qu'on faisait à bord. Typiquement, un train, je passais dessus, j'avais fait 2 PV, et 2 jours après, j'avais mon chef d'équipe qui venait en me disant, comment ça se fait que t'as fait que 2 PV, tous tes autres collègues ont fait minimum 10 PV.
Ah ouais, ok.
Ce train-là, ça fait 2 mois qu'il y a minimum 10 PV, et toi t'en as fait que 2, c'est pas normal. En gros, il y avait de plus en plus d'explications à donner sur son travail pour de la répression, et j'aimais pas trop ça, en fait.
Ouais.
Attention, je veux pas dire que la SNCF donnait des objectifs de répression et d'encaissement à bord.
C'était pas que ça.
Mais ce qu'ils ont jamais voulu mesurer, c'était le nombre de fois où j'ai renseigné des gens à bord, le nombre de fois où il y a des gens qui sont partis avec un fou rire, où j'ai emballé des cadeaux parce qu'il y a des gens qui allaient à Noël à Lorient pour Noël, et ils étaient en train de finir d'emballer leurs cadeaux dans le train, et je leur ai dit, mais on arrive à Lorient là, et du coup j'étais en train de leur aider. Et tous ces petits services à bord qui a donné une belle image de la SNCF et tout ça, ça se retrouvait dans aucun tableau Excel. C'est le gros reproche que je faisais, et c'était l'objet de mon mal-être, en fait, dans cette entreprise.
Et alors petit à petit, t'as parlé d'un mal-être.
Ouais.
Comment ça s'est installé? Quels ont été un peu les signes du fait que tu étais en mal-être?
Les signes, c'était l'énervement. Je rentrais chez moi et je pétais un câble pour rien. On me l'a bien fait comprendre. J'étais très tendu.
Okay.
Et puis, je m'étais froissé. Au bout d'un moment, je m'étais pris en grippe sur le manque de reconnaissance et le manque d'écoute, surtout, par rapport à ce mal-être. Et du coup, j'étais parti en tête de plus contrôler mes trains, en fait. De les faire, d'aller au contact des gens, et de plus mettre de PV, plus faire de billets à bord. Et puis, il y a une déléguée du personnel, une certaine Magali, qui m'a dit « Bah écoute, Guillaume, fais attention, parce que... juridiquement, la SNCF peut vraiment porter plainte contre toi parce que tu fais pas ton travail et tu coûtes à l'entreprise, en fait.
Ouais.
Enfin, en gros, il y avait un truc juridique, je n'ai pas retenu lequel, mais dis attention, ils peuvent jouer là-dessus.
Ouais. Oui, ça aurait pu être une faute professionnelle.
Voilà, c'est ça, faute professionnelle, et puis même, je crois qu'on pouvait m'amputer. Enfin voilà, ça pouvait être quand même assez lourd de conséquences, et je voulais pas que ça en arrive là non plus. Et puis un jour, il y a eu une grève. Je faisais partie d'une équipe qui faisait les intercités. Et un jour, il y a eu un mouvement de grève parce qu'ils nous avaient vraiment foutu. Alors, ils nous avaient foutu des roulements invivables. Je mets au défi quelqu'un d'avoir une vie de famille ou même d'avoir des amis. Et donc, la durite avait pété, en fait, quoi. On s'était mis en grève. Et là, il y a le grand patron de Paris qui est descendu de l'intercité et qui était à notre écoute, en fait. Et là, on a senti un mal-être plus profond, en fait, dans l'entreprise. puisqu'on a dit, mais parce qu'il y avait un appel d'offres en parallèle sur nos lignes, en fait elles étaient privatisables. Et nous on a dit, mais si c'est Veolia qui rachète, qu'est-ce qu'on devient? Et vous rendez compte que tout le monde va se barrer et tout. Et on a bien senti que Paris, ils étaient démunis face à tout ça. Et qu'ils ont dit que s'il y a des cheminots qui doivent partir, on ne pourra pas les retenir. Et moi j'ai lâché un truc et j'ai dit, vous acceptez les ruptures conventionnelles? Et le mec a dit, bah on est à votre écoute, quoi. Donc voilà, devant tout le monde, ouais. Et en réalité en off, parce qu'ils devaient croire que c'était du bluff. Moi je suis vraiment allé voir mes RH et tout ça. Et en fait ils ont jamais voulu m'écouter. Et ce qui a fait péter le truc, c'est que en fait j'ai voulu voir mon RH 4 fois. Il m'a refusé 4 fois. Et la 4e, c'est carrément un recommandé, hein, je blague pas. J'ai reçu un recommandé chez moi me disant, Monsieur Chouéka, arrêtez de me solliciter. Pour un RH quand même. Arrêtez de me solliciter, vous n'obtiendrez rien de ma part. Donc même pas une écoute, quoi. Ça, c'est chaud, quoi. Et là, j'ai fait, bon bah ok, en fait, des fois l'énervement, ça a du bon. On dit ne jamais réagir sur la colère, ne jamais agir sur la colère. Mmh. En fait, ce jour-là, je l'ai fait. Et en fait, dans les 30 minutes qu'ont suivi l'ouverture de ce préavis, ce courrier, et ben en fait, j'ai envoyé mon préavis de... J'ai envoyé ma démission, en fait.
D'accord, t'es passé à la démission.
J'ai fait direct. Elle était assez simple. Je l'ai reçue 30 minutes après. J'étais à la poste avec le recommandé accusé de réception.
Ouais. Donc ça, c'était en 2019. Voilà. Mais du coup, comment t'en arrives à démissionner? Tu disais, hein, ta passion depuis que t'étais enfant, c'était les transports.
J'aimais beaucoup les transports.
Comment t'arrives à ce moment où tu poses ta démission?
En fait, c'est le dégoût de ma hiérarchie, en fait. Voilà. Le manque d'humain, en fait, que j'avais trouvé au début. Je vais te citer un exemple tout bête. Hein. Ouais. Quand j'ai démissionné, au bout d'un mois que j'avais quitté l'entreprise, alors déjà, pour la petite histoire, mon dernier train, j'avais les larmes aux yeux, j'étais incapable de faire mon annonce d'arrivée, parce que je savais pas quoi dire, en fait, à mon annonce d'arrivée. Ouais. Et j'avais personne sur le quai pour m'accueillir. Je partais de l'entreprise comme si c'était rien passé en 11 ans d'histoire. Même pas un chef, rien, même pas un collègue qui est venu me voir ou quoi. Je suis arrivé à la commande du personnel, parce que quand on quitte son train, on va à la commande du personnel. Et là, la commande du personnel qui cherche en disant, bah tiens, c'est bizarre, Guillaume, je crois, j'ai rien pour toi. Mais j'avais envie de dire, bah oui, c'était mon dernier train. Ah, mais oui, c'est vrai. Enfin, c'est choquant, quoi. Et pire que ça, en fait, un mois après mon dernier train, quand j'avais quitté l'entreprise, j'avais toujours ma tenue de contrôleur chez moi, j'avais toujours mes papiers, tout ce qui est sensible, en fait, de la SNCF, je l'avais toujours. Et en fait, un jour, j'ai fait, bah attends, ne me contacte pas, rien. J'ai tout mis dans des sacs Super U, tu vois. Enfin, je n'allais pas leur donner des sacs à moi, tu vois. Donc, des pauvres petits sacs et tout. J'arrive à la gare. Je toque au bureau des chefs, des anciens, enfin, mes anciens. Mon chef d'équipe n'était pas là, peut-être heureusement, parce que j'étais un peu énervé. Et c'est un chef, un jeune chef qui venait de... Enfin, c'est un jeune chef, oui. C'est un bon vieux cheminot, mais qui était juste passé chef, en fait. Et il m'accueille, David, et il me fait... attends, personne t'a contacté? Je dis, non, regarde, j'ai tout mon matos, personne ne le réclame. Il était désolé pour moi. C'est le seul qui a eu de la considération, qui était désolé. Quand je lui ai raconté toute mon histoire pour partir, quoi, il m'a dit, c'est pas possible. Je dis, si, tout s'est passé comme ça. Ouais. Et en fait, la SNCF était même pas à me réclamer son matériel. Un manque de considération, mais jusqu'au bout, quoi.
Ouais.
L'humain, mais rien à foutre.
Ouais.
Et voilà, donc j'ai vraiment aucun regret d'être parti, parce qu'en fait, mon dégoût est venu à cause de ça. Ce manque d'humanité qui était parti.
Ouais.
Cette fracture entre la hiérarchie et ses agents. Et du coup, ça se répercutait sur le abord. En fait, on ne demandait pas d'avoir des relations avec tes voyageurs. On demandait de remplir les stats, d'avoir 60% de taux de contrôle sur ton TGV, d'avoir fait les 5 PV de moyenne qu'il y avait sur ce train-là. Enfin, tout ce qui était vérifiable, ce que je disais tout à l'heure en tableau Excel, c'est tout ce qu'on te demandait, quoi.
Et tu as parlé de cette émotion quand même du dernier voyage.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as ressenti il y avait cette colère et en même temps, cette tristesse.
J'étais profondément triste parce que j'avais l'impression de tourner une page malgré moi, en fait. Parce qu'en fait, la SNCF, c'est l'opérateur historique. Je l'aime bien, cette SNCF, mais c'est plus mon métier que j'aimais beaucoup, en fait. Et ce poste, en fait, d'être à bord des trains et de rendre service, d'être un peu le seul steward à bord, tu vois. Et j'aimais beaucoup ça, tu vois. Et ça m'a tristé profondément de devoir quitter tout ça, en fait.
Okay.
Mais pas le choix. Parce que tout le reste qu'il y avait autour qui était devenu pourri, ça me gangrénait, moi, et ça gangrénait, du coup, mon contact avec les autres personnes que j'avais dans ma vie privée.
Mmh.
Parce que j'étais pas bien, donc je le répercutais sur ma vie privée.
Mmh.
Et c'était grand temps que je parte. Mmh. Et puis aujourd'hui... Ouais, comme je te disais, j'ai des fois quelques souvenirs où je me dis, ah, c'était cool. Puis finalement, quand j'écoute mes anciens collègues, je me dis, non, putain, j'ai bien fait de partir.
Ouais. Ouais, tu dis, j'ai pas de regrets.
Non.
Je sais pas, il y a une forme de nostalgie, de...
Bah, une nostalgie, ouais, forcément. Ouais, il y a une nostalgie, c'est sûr. Ouais. Après, voilà, j'oublie pas, en fait. Faut faire attention quand on quitte un job. Parce que, bien évidemment, il y a les côtés positifs qui vont nous revenir après. On a tendance à vite oublier les côtés... enfin, ça dépend pour qui, hein, mais... Je sais que quand on est nostalgique, on pense qu'au positif. Un peu comme une relation, en fait. Quand on s'est fait plaquer ou quand on plaque quelqu'un, en fait, si on pleure, c'est parce qu'on repense qu'au moment positif. Et en réalité, il n'y avait pas que des moments positifs dans une relation. Mais là, c'est pareil, en fait. Et des fois, je me force à me dire, mais attends, Guillaume, t'es pas parti pour rien, en fait. L'oublie pas, ça. Voilà. Donc, j'ai de la nostalgie, mais j'ai pas de regrets pour ça. Parce que je me dis ça, j'ai pas de regrets, en fait.
Et alors, comment t'as préparé ce départ? Parce que quand même, au moment où tu... Même quand tu le dis publiquement, les ruptures conventionnelles, vous les acceptez, t'as quand même réfléchi au truc un peu avant.
Ben, j'ai essayé de réfléchir avant. Après, je t'avoue, je l'ai pas du tout préparé, mon départ. Parce que, comme je t'ai dit, c'est fait sur un coup de colère. Et du coup, j'ai tout perdu parce que j'ai démissionné.
Oui.
Voilà. Ouais. Et ben, j'ai pas réfléchi. La seule chose que j'ai demandé, c'est à la personne avec qui je vis. Je lui dis, est-ce que t'es OK? Parce que c'était forcément un sacrifice financier. Et il m'a dit, oui, vas-y. De toute façon, je te supporte plus. Donc, donc autant que tu redeviennes supportable et j'assume le foyer. Et il faut savoir que c'est une personne que j'ai beaucoup soutenue à son départ professionnel aussi. Très galère et financièrement, j'ai été là pendant quelques années. Donc,
les rôles s'inversaient.
Voilà, moi j'ai pas dit, bah écoute, tu me fais le retour de médaille. Non, c'était pas dans cet état d'esprit. Mais il m'a dit, bah écoute, de toute façon, je te suis redevable, mais tu m'as aidé, donc je vais t'aider. Voilà, ouais. on était un pour l'autre.
Et du coup, t'étais pas non plus dans l'optique de retrouver un autre job qui aurait pu être dans aussi les transports en commun, je sais pas, conducteur de bus, toi, j'étais n'importe quoi.
Non, mais en fait, pour la petite histoire, avant de démissionner, j'avais fait un entretien d'embauche chez Volotea. Et vu que j'avais rien à perdre, cet entretien d'embauche est très mal passé. Et quand je vois l'état de Volotea aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai bien fait de pas y aller. Mais n'empêche que j'avais fait un entretien d'embauche. Et puis après, j'ai eu une réflexion, c'est que j'aime beaucoup la photo. En 2016, il y a quelqu'un qui a semé une graine. J'avais rencontré un photographe qui m'a dit, quand il avait vu mes photos de passionné, il m'avait dit, mais lance-toi. Et syndrome de l'imposteur, bonjour, j'avais dit jamais je me lancerai en tant que photographe, j'ai pas de diplôme, rien. En plus, quand tu tapes photographe Nantes en top liste, t'as les plus gros noms qui arrivent de Nantes, quand tu vois leur travail, tu rougis, quoi. Vraiment, tu te dis, c'est pas... Non, j'ai pas ce niveau-là. Et clairement, je l'avais pas quand je me suis lancé. Et on a beaucoup discuté photo. Il m'a dit, mais lance-toi. Et voilà, il m'a convaincu et tout ça. Et puis ce mec est parti, je l'ai plus jamais revu. Pour la petite histoire, en 2016, tu me penses bien que j'avais pas noté son nom et prénom. Sais plus. J'aimerais qu'il m'écoute aujourd'hui et le remercier, tu vois. Mais je sais que c'est un photographe parisien, voilà. Et je sais plus si c'est Antoine ou Nicolas, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un truc. Voilà.
Sébastien.
Il y avait un A. Et du coup, en effet, en fait, ça a travaillé puisque quand j'ai commencé à avoir ce ras-le-bol, j'ai commencé à, comme je te disais, à chercher un peu vers d'autres compagnies de transport.
Ouais.
Et puis après, je me suis dit, j'ai eu une réflexion toute bête, et je me suis dit, mais attends, Guillaume, si tu te lances pas dans la photo, aujourd'hui, c'est le moment, tu vois. Un ras-le-bol, t'as un moment de switch professionnel, tu le sens, en fait. Je le sentais que j'étais un switch. Et je m'étais dit, donc c'était à 31 ans, si à 31 ans, tu te lances pas dans la photo, tu vas le regretter, Guillaume. Je m'étais dit, voilà, si tu le fais pas, tu vas mourir avec des regrets.
Okay.
Moi, j'ai une hantise dans ma vie, c'est d'arriver à un espèce de bilan que tu fais à 70, 75 ans, peut-être plus tôt dans la vie, je sais pas, mais j'imagine un truc vers fin de vie, tu vois, et tu fais un bilan de ce que t'as fait et surtout de ce que t'as pas fait, parce que je crois que l'être humain est un peu fait pour avoir pour cultiver le regret. C'est peut-être un état d'esprit, mais je pense qu'on se l'avoue pas, mais on est tous en train de se dire, putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci et tout.
Ouais.
Mais alors surtout, je m'étais dit, mais si tu regrettes de pas avoir fait ça alors que tu pouvais le faire. Surtout que j'ai déjà des regrets de choses qui sont trop tard, tu vois. Pendant l'adolescence, des trucs que j'ai pas osé ou quoi. C'est trop tard, je peux pas redevenir ado, tu vois. Et là, je m'étais dit, bon, ok, je me lance. J'ai rien à perdre. J'ai quelqu'un qui me suit. J'avais fait mon premier crédit immobilier et tout. J'ai dit, allez, c'est le moment. Donc, j'ai dit, ben, je vais écrire une page. Et puis, je l'ouvre. Puis, je sais qu'elle va se fermer à un moment donné.
Mm-hmm.
Alors, soit elle se fermera parce que je prendrai ma retraite. Mm-hmm. Soit elle se fermera parce que j'en ai marre. Soit parce que c'est plus vivable financièrement parlant, soit j'en ai ras-le-bol. Mais en gros, le but là que j'ai fait en me lançant, c'est que je me lance et on verra où ça mène. Et puis si cette page doit se refermer, je trouverai autre chose ou quoi, mais au moins j'aurai pas de regrets. Et c'est ce que j'ai fait en 2019 du coup.
Et alors, pourquoi cette passion-là de la photo plutôt qu'une autre? Parce que tu dis que tu as d'autres passions de la photo, d'autres passions.
Ouais, alors j'ai d'autres passions. Alors après, pourquoi la photo? Parce que je le sentais bien. Et j'étais de plus en plus passionné par l'image. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard aujourd'hui. Donc, je suis toujours photographe, mais je donne beaucoup d'énergie à ma culture que j'ai, la culture que j'ai sur l'analyse d'image. Parce que en fait, c'est ce que je dis. Donc maintenant, je donne des cours. Enfin, des cours, c'est un grand mot, mais je fais des petites formations, des ateliers au Centre Nantais de Journalisme. Et du coup, sans vouloir faire mon vieux, mais j'ai des gamins en face de moi qui ont 18, 20, 25 ans, certains. Et je leur dis, vous savez, moi j'étais le genre de gars qui, au lycée, au collège, à l'école, quand on me demandait de lire un livre, je regardais les images. Quand j'ouvrais un livre d'histoire, je regardais les images. Et d'ailleurs, j'étais mauvais en histoire parce qu'il fallait apprendre des textes, mais j'étais très bon en géographie parce qu'il fallait analyser des images. Mmh. Et tu vois, je leur dis ça. Moi j'étais le genre de gars qui, en fait, j'ouvrais les livres pour regarder les images. Mmh. Et même encore aujourd'hui, tu me donnes un West France, je regarde les photos avant de lire l'article, si éventuellement la photo m'intéressait. Et du coup, je m'étais dit, mais ouais, en fait, j'aime la photo. Et quand je partais en vacances avec mes parents, ma mère me disait, bah, de toute façon, les photos, c'est Guillaume. Mmh. Et voilà, tu vois, il n'y avait pas de hasard, en fait. Mmh. J'adorais prendre des photos. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment lancé là-dedans, parce que je sentais que j'avais une fibre. J'ai fait de la musique, mais mes potes pourraient en témoigner, en fait. J'aimais la musique, mais je crois que j'aimais plus l'ambiance entre potes et plus le résultat final de jouer avec des potes et de prendre l'émotion qu'il y a, les good vibes qu'il y a ensemble, qu'on ressent. Mais en fait, j'arrivais pas à composer, j'arrivais pas à être inspiré. J'avais un frein, en fait. Ouais. Je trouvais que c'était une passion, mais j'avais un espèce de frein, en fait. Et il y a d'autres passions que j'ai eues, mais je crois que la vraie passion, tu vois, c'est quelque chose où tu sens qu'il n'y a pas de frein. T'es hyper inspiré dans la création, dans l'analyse, dans la globalité, en fait, tu sens que tu peux y aller, en fait. Et il n'y avait que la photo, en fait, où je me sentais inspiré sur tous ces aspects.
Oui, c'est intéressant parce que des fois, la passion, quand ça commence à devenir le travail, c'est plus... Enfin, on perd le côté passion.
Ouais.
Du coup, toi, tu as réussi à cultiver
J'ai réussi à cultiver
la passion et le travail.
Ouais. Mais par contre, quand je me suis lancé, j'ai voulu faire un peu beaucoup de choses parce que je pense que c'est nécessaire de toute façon, parce qu'on me l'a dit, hein, ben comme beaucoup de choses. Hein, quand je me suis lancé, on m'a dit, alors fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. Bon, j'ai voulu tout faire. Hein. Ouais. Tous les conseils qu'on m'a donnés, en fait, je suis le genre de gars où en fait, il faut le voir pour le croire. Et donc, du coup, je me suis cassé les dents sur plusieurs trucs.
Ouais.
Et je me dis, ouais, en fait, t'avais raison. Bon, voilà. Et notamment, on m'avait dit, surtout, lance-toi dans la photo, mais fais que des trucs que... Fais genre que des portraits ou que des reportages ou que des trucs.
Ouais.
Fais pas photographe d'entreprise, de mariage, de baptême, de machin. Et on en voit des photographes qui font ça.
Ouais, ouais.
Ils sont pas forcément mauvais d'ailleurs. Mais du coup, t'es pas spécialisé dans un truc en fait.
Mm-hmm.
Tu peux être moyen partout en fait.
Ouais, c'est ça.
Et de toute façon, moi j'ai voulu tâter des trucs et je m'en suis dégoûté en fait. Il y a des photos que j'ai pas du tout aimé faire. Typiquement, mettre des filtres de piscine sur fond blanc. Au début, je l'ai fait. Je m'étais dit, ouais, ça va être cool et tout. Et j'ai encaissé de l'argent parce que c'était 12€ la photo. Il y avait je sais pas combien de filtres. Et c'était rémunérateur, c'était hyper flatteur d'ailleurs.
Ouais.
Mais qu'est-ce que je me suis fait chier. Et l'enfer, quoi, l'enfer. Et un jour, ça s'est mal passé. Et ben, d'un commun accord avec mon client, j'ai dit, bah, vous savez quoi, mon travail vous a pas plu, moi non plus. Et dit, bah, on arrête. Hein. Et du coup, ce qu'on appelle le pack shot, plus jamais, quoi. Mais on peut me payer 5000€ la photo. Non, quoi.
Et alors, 2018, c'est là où tu te lances. Tu considères...
Je crée mon statut parce que je pensais que j'allais me lancer dans cette année-là. Et puis, j'ai repoussé l'échéance. Et puis, ça fait peur de se lancer.
Qu'est-ce qui te faisait peur?
Bah d'être indépendant, en fait. De démarcher, faire sa compta, de pas se planter. Comment trouver des clients, gérer la relation client, quel tarif donner. Et surtout, la concurrence. Moi je suis le genre de personne, j'aime pas être mal vu en fait. Tu vois, j'aime pas qu'on ait un mauvais œil sur moi. J'avais peur d'un truc, c'est de marcher sur le terrain des autres. Et j'ai eu la chance parce que tous les réseaux que j'ai trouvés jusqu'à présent, c'est des réseaux qui sont créés en même temps que moi. Et du coup, je marche pas sur le terrain. Je marche pas sur le terrain de jeu de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça hyper appréciable.
Mmh.
Et du coup, chacun sur Nantes a sa petite zone, tu vois. Et chacun rayonne de son côté. Et même, je trouve que sur Nantes, j'ai eu des bons contacts avec d'autres photographes. Et c'est cool parce que tu vois, quand il y en a un qui est overbooké, il file des contacts à l'autre. Et du coup, je suis plutôt dans cet état d'esprit-là, en fait. Plus on est de fous, plus on rit. Et même au contraire, si on est unis entre confrères et consoeurs, ça pourra nous aider à faire valoriser notre travail. Quoi. Et d'ailleurs, il y, y a des clients qui m'ont dit, bah non, on a préféré prendre un autre photographe, on est désolé et tout. Je dis, mais soyez pas désolé. Moi, ma première victoire, c'est que vous ayez fait appel à un photographe ou une photographe. Donc voilà. Donc moi, là, au début, j'avais peur de la concurrence.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et aujourd'hui, j'adore mes confrères et consœurs.
Ouais, t'as réussi à créer la relation.
Voilà, alors pas avec tous.
Oui.
Voilà, il s'est passé des trucs bizarres. J'ai un de mes confrères, du jour au lendemain, il a coupé les ponts, il m'a blacklisté, enfin un truc, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais bon, bah soit, allez, c'est la vie, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde de toute façon. Voilà, c'était ma peur au début, d'être vraiment mal vu. Et puis, la peur de mal faire, en fait.
Ok.
Imagine, tu te lances dans la photo, tu fais une presta, le client te aime pas du tout, l'enfer quoi. Alors qu'en réalité, c'est rien du tout. C'est que du coup, tu te rends compte que t'es pas fait pour ça, et puis allez, tu vas chercher un autre boulot, et c'est parce qu'il manque sur Nantes en plus.
T'avais peur de te rendre compte que t'étais pas fait pour ça ?
Ouais, je crois.
Ouais.
Ouais, ouais, je crois vraiment que ça me faisait peur. Parce qu'en fait, je crois que ça m'obligeait à m'affirmer en photo. Tu sais, quand t'es... alors, j'aime pas du tout ce terme-là, mais photographe amateur.
Mmh.
Voilà. Pour moi, il n'y a pas de photographe amateur. On est photographe, point barre. Okay. Et photographe pro, c'est juste le mec qui s'est fait chier à créer un statut et qui galère à en vivre. En gros, quand tu te lances en tant que photographe à ton compte, vraiment, en entreprise, en gros, t'es plus dans l'ombre, en fait. Tu t'exposes, en fait. Et du coup, il faut, à mon sens... Si tu t'exposes, tu te mets en avant auprès des entreprises et des gens, en fait, il faut que tu aies une valeur ajoutée, en fait. Il faut qu'il y ait un intérêt qu'on aille vers toi. Moi, je le mesurais pas à ce moment-là. Et je suis content, quand je te disais que j'étais content de mon évolution, c'est parce qu'aujourd'hui, je commence à avoir déjà des retours clients qui font plaisir, où il y en a qui me disent « Ah, on ressent ta patte, en fait, on ressent ta sensibilité dans les photos. » Et ça, c'est ce que je voulais, en fait, parce que j'ai aucune prétention technique, en fait. Techniquement, je suis pas très bon. J'ai les bases, j'ai tout ce qui fait que mes photos sont réussies techniquement, mais voilà, j'ai pas la perfection et je la veux pas d'ailleurs.
C'est pas ce que tu recherches.
Ah non, j'en veux pas du tout.
Ouais.
Parce que moi, en fait, maintenant, ce que je cherche, c'est l'âme d'une photo, tu vois, ce que les gens vont ressentir. Et je suis content parce que ça se ressent aujourd'hui. Il y a de l'émotion dans mes photos, toute modestie, je le dis parce que c'est le retour que j'ai. Et puis, dans ma façon de traiter les photos, ça y est, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît.
Mais ça, j'imagine que ça a été tout un cheminement aussi. Au début, ta valeur ajoutée, tu la voyais peut-être pas forcément.
Non, je la voyais pas du tout.
T'avais ce syndrome de l'imposteur.
Oui.
Et comment t'as levé ces freins progressivement ?
En fait, c'est un peu étrange parce que au début, je m'étais dit ça se travaille, faut que je fasse gaffe et tout. Puis finalement, en fait, j'ai appris à vivre avec et j'ai pas vu le temps passer. J'ai fait mes prestas au fur et à mesure. Et c'est très récent en fait. C'est d'ailleurs peut-être pas plus mal que notre interview se soit décalé un peu dans le temps pour diverses raisons, parce que c'est vraiment très récent que j'ai fait le constat de voir que en fait, il faut pas chercher à franchir un cap. Il se fait naturellement en fait. Et je l'ai constaté en fait. Là, j'ai arrêté de me focaliser sur mon travail, de mal vivre au début mes prestats, j'étais là, je putain, mes photos elles ont pas ce que je veux, elles ont pas ce que je veux, elles ont pas ce que je veux. Alors non pas que j'avais honte de livrer mes photos à mes clients, je veux pas faire culpabiliser tous les clients que j'ai eu d'ici là, enfin pas d'ici là mais avant cela, mais j'étais quand même content des photos que je leur livrais, mais moi au fond je me disais il manque un truc quoi. Et en fait il y a pas longtemps j'ai fait je suis content en fait, ça y est, en fait je crois que j'ai franchi le cap. Et en fait c'est un peu comme des fois dans tu sais, les personnes qui cherchent à rencontrer quelqu'un pour se mettre en couple, en fait, plus tu cherches, moins tu trouves,
vois.
Et on leur dit toujours, mais t'inquiète pas, ça se fait naturellement. Et des fois, c'est un peu le hasard d'une rencontre, tu le cherchais pas et pouf, tu tombes amoureux. Et ben, en fait, c'est un peu pareil pour l'amour que t'as avec ton travail, en fait. Plus tu vas chercher à être amoureux de ton travail et moins tu vas y arriver. Et à un moment donné, j'ai baissé ma garde, tu vois. J'ai laissé faire les choses sans faire exprès. Et puis là, pouf, au bout de 3 ans, je viens de faire un constat que je fais, ah putain, je suis passé de 30% de satisfaction de mon travail à 75, on va dire.
Tu vois,
il me reste encore un peu quand même. Mais je suis en majorité content de mon travail que je fournis. Après, je pense aussi que ça vient du fait qu'avant, j'étais très concentré sur la technique. Et maintenant, je suis plus concentré sur la composition de la photo et l'âme de photo. Et maintenant, je suis capable de garder une photo qui, techniquement, n'est pas très parfaite. Voire même, j'ai gardé des photos avec un léger flou. Paradoxal, pour un photographe. Mais par contre, la photo dégageait un sentiment de ouf. Hein, la personne... en fait, j'ai dit, mais tant pis. La photo n'est pas très nette, mais je vais la garder. Mais voilà.
Et tes clients sont contents, quoi.
Et mes clients sont contents. Alors, je parle d'une photo floue de temps en temps. Mais maintenant, c'est juste un exemple pour dire que je voilà. c'est pas, pas la technique, c'est le message qui va être véhiculé sur la photo.
Tu te souviens, ton premier client, la première fois qu'on est venu te chercher pour faire la photo et qu'on t'a payé?
Oui. Ah bah c'était horrible, j'avais une pression de malade. Mmh. Une pression de malade parce qu'en fait, mon premier client, c'est grâce à une chargée de com que je connais bien. Et c'était un événementiel sur une journée complète. Et donc du coup, c'était au Futuroscope. Et en gros, je vais te donner un ordre d'idée, mais le budget de la soirée, enfin de la journée, de l'entreprise, c'était 150 000 euros. 500 personnes, le deuxième groupe immobilier en France, un promoteur et tout. Et là, Marie, que je connais, voilà, qui me dit, bah, allez, voilà, bienvenue, on a signé ton devis, et voilà, c'est ta première presta. Ouh, youpi. Truc de malade, quoi. Enfin, avec feu d'artifice, enfin, tu peux pas dire, putain, j'étais pas prêt, j'avais pas les bons réglages et tout, recommencer le feu. Enfin, non, mais même pas. Enfin, ouais, donc je m'en souviens très, très bien, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie, parce que c'était une pression de malade. J'ai pas arrêté de la journée. J'ai passé mes 2 semaines complètes à retoucher les photos. Enfin, aujourd'hui, l'événement de Paris, je les ai retouchées en 3 jours, les photos. Le premier événement que j'ai fait, c'était en 2 semaines. Parce que j'étais là sur chaque photo, j'étais sur chaque détail. Oh, putain, j'ai une lumière qui est un peu trop forte ici et tout. Et voilà, parce que j'étais perdu. J'avais une... Ouais, ça m'avait déstabilisé. J'ai fourni un bon travail. Hein. Parce que d'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand j'ai dit, bah alors, qu'est-ce que tu penses de mon travail? Enfin, voilà, c'est quoi, c'est... Et elle m'a dit, bah, je vais te dire un truc, hein, tout bête, hein, tu le prends comme tu veux, mais on pourra pas te garder photographe longtemps, en fait. Parce qu'on pourra plus te payer.
Ah ouais?
Voilà.
Waouh.
Donc ça voulait dire que, en fait, j'avais facturé 900 euros, ce qui est rien pour un événementiel comme ça. Mais c'était le prix à payer pour débuter, en fait.
Oui, pour
avoir un gros contrat comme ça dès le début.
Ouais.
Et elle m'a dit, bah, en fait, là, tes photos, elles sont d'une qualité, on pourra pas te... Si tu factures au vrai prix qu'elle le vaut, on pourra pas te garder, quoi.
Comment tu l'as pris, ça?
Je l'ai pris super bien. En plus, imagine bien que quand j'avais fini de livrer toutes les photos, j'étais d'un... j'étais soulagé, j'avais un point en moins sur la conscience. Et puis, bah, après, tu retombes vite à la réalité, tu dis, bon, voilà, ça c'est fait.
Comment je fais?
Mais la suite, quoi, voilà, il faut l'écrire, la suite. Et, mais ouais, le retour des gens, c'est hyper important. Mm. Et ça m'a aidé un peu à retirer le syndrome de l'imposteur. Et puis, surtout, j'ai arrêté de me comparer aux autres, en fait. Parce qu'en effet, j'ai 2-3 photographes de référence sur Nantes. Je vais les citer, hein, c'est des photographes que j'aime beaucoup. Antoine Monnier, Louis Brunet, Valérie Joncheret. C'est 3 grosses pointures sur Nantes. Mm-hmm. Quand je vois le taf qu'ils font, il n'y a pas de hasard. Hein, leurs clients, c'est des grands noms. Hein, Aéroport de Nantes, Ville de Nantes, Conseil Régional. Voilà. C'est utile quand même de faire ce qu'on appelle une veille de temps en temps, de regarder leur travail. Mais pour moi, c'est des messieurs de la photo sur Nantes. Et tu vois, même encore, je me dis que... J'arrive pas à leur cheville, en fait. Mais en même temps, on n'a pas les mêmes clients, quoi. Eux, ils ont des grands noms qui ont besoin de leur niveau de photographie et de leur regard un peu luxueux dans la photographie. Mais moi, j'ai des clients qui cherchent autre chose qu'une photo hyper belle, hyper catalogue et tout ça. Moi, j'ai des personnes qui veulent de l'authentique, qui veulent de l'émotion. Mes photos, aujourd'hui, techniquement, j'en suis content. Enfin, j'invite les gens à aller regarder un peu mon book, mes reportages, mon site internet. Mais j'ai une autre approche. Et du coup, ça, je l'ai compris. On ne peut pas avoir la même approche. On ne peut pas avoir les mêmes clients. Mmh. Et donc, j'arrête de me comparer parce qu'en fait, on n'est juste pas comparable. Mmh. On n'est pas sur les mêmes marchés, sur les mêmes ambitions et sur la même façon de prendre des photos.
Mmh. Tu parlais au début des conseils qu'on t'avait dit de ne pas t'éparpiller, de ne pas être photographe pour tout. Comment toi, progressivement, t'as réussi à te positionner par rapport à ça?
Par dégoût. J'ai fait des sessions que j'ai pas du tout aimées. Je me suis dit, mais plus jamais. Voilà. J'ai fait des photographies pour une marque de vêtements. J'ai pas aimé. Pourtant, il y avait des modèles et tout. Hein, c'était cool. Aujourd'hui, une marque me contacte. Elle me dit, ouais, je voudrais un shooting de mode. Je vais avoir mes conditions.
Oui.
Mais il faut pas que ça soit mode comme j'ai fait pour une boutique à Nantes une fois. J'ai pas du tout aimé.
Okay.
Backshot, j'ai détesté.
Okay.
Enfin voilà, il y a plusieurs trucs, je referai pas.
Hein. Petit à petit, t'as mis des croix un peu sur les trucs que tu voulais pas faire.
L'immobilier aussi, ça me saoule. J'aime pas les photographies immobilières. Par contre, mes clients qui me font confiance, j'ai pas envie de les. Alors certains diront, ouais, c'est le côté pécunier, mais j'ai pas envie de les trahir, en fait. J'ai 3-4 clients aujourd'hui qui font régulièrement appel à moi pour l'immobilier, mais je les garde. Et je les garde aussi parce que, en fait, dans l'immobilier, ce qui m'a dégoûté, c'est qu'il y en a, il faut un peu trahir la réalité. Il faut embellir à fond, enfin que ça soit ultra vendeur, en fait. Moi, les clients que j'ai gardés, c'est pas ça. c'est tu prends une photo belle de mon lieu, enfin du truc que je veux vendre, mais tu trafiques pas en fait. Et puis je travaille avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Et dans l'immobilier, il y en a, mais pas beaucoup.
Ouais.
Et du coup, voilà, je suis content de travailler pour eux. Et puis aussi, c'est aussi parce que souvent c'est un prétexte pour aller boire une bière ou un café ensemble. Voilà, pareil, au début on m'a dit ouais, tu fais pas les photographies de paternité et de naissance.
Ah oui, ouais.
J'ai essayé une fois pour un ancien collègue.
Ouais.
J'ai pas aimé, j'ai passé un temps fou à retoucher les photos parce que j'étais jamais content de mon travail et j'ai pas la fibre.
Okay.
Je suis désolé, c'est un peu cru, mais les femmes enceintes et les bébés.
C'est pas ton truc.
Non, puis enfin, je ça me choque. Enfin, voilà, désolé, hein, je sais que c'est des beaux moments de la vie,
ouais.
Mais j'ai pas trouvé ça beau, j'ai pas pris de plaisir. Voilà. Et les mariages, moi ça me demande un effort à titre personnel, c'est cliché quoi.
Okay.
C'est paradoxal pour un photographe, hein, mais c'est archi cliché quoi. J'en peux plus, moi les danses de la brioche et tout ça, là, les trucs gnangnan, on sort de l'église, allez, machin et tout, ouais, ça m'insupporte. Ça aurait été bien d'imposteur de ma part que de dire ok, je prends votre chèque à 1500 balles et puis.
Ouais,
voilà.
ouais,
non, je me dirige vers des prestats que j'aime.
Ouais.
Et du coup, bah, voilà, reportage en entreprise, portrait.
Mmh. Ouais, et au fur et à mesure, du coup, tu as été amené à dire non, du coup, à certaines prestations,
oui.
À certains clients.
Oui.
Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de se positionner parce
difficile.
Que ça nécessite de dire non.
Mais en fait, alors c'est très difficile, sauf quand on découvre qu'on peut le faire et qu'on y arrive.
Mmh.
Et franchement, même maintenant, quitte à perdre des contrats, je dis non à des clients quand ils me demandent trop de trucs.
Ok.
En fait, j'ai découvert qu'on pouvait dire non dans la vie entrepreneuriale, mais même personnelle, ça vaut, je pense que les deux se rejoignent.
Ouais.
Et depuis que j'ai découvert ça, et que ça marche, et que ça t'évite de te foutre dans la merde surtout, et ben, c'est presque, je prends un malin plaisir des fois à dire non. Mmh. Alors pas juste pour le plaisir de dire non, mais c'est juste que maintenant j'hésite plus du tout. Et même il n'y a pas longtemps, là, j'ai encore une start-up parisienne qui veut faire des shootings pour des salons de coiffure, là, par exemple, pour des coiffeurs et tout ça.
Ouais.
Et c'est un peu du genre à t'envoyer vers un salon de coiffure et te dire, ouais, il faut faire 100 photos en une heure pour, 10, pour 100 euros le shooting. Et du coup, là, j'ai été contacté il n'y a pas longtemps et je dis, attendez, je vous arrête de suite, qu'on se mette d'accord. Vous êtes le genre de... premier contact. Hein, est-ce que vous êtes le genre d'agence qui va me dire que c'est 100 euros le shooting ou quoi? Enfin, j'ai plus peur, en fait. J'impose mes conditions ou quand me donne des conditions, je dis oui ou non, mais je le dis. Et en fait, ça, putain, mais qu'est-ce que ça aide? Parce qu'en fait, ne pas le faire, clairement, on va se foutre dans la merde.
Et savoir dire non en tant qu'entrepreneur, ça t'a aidé à savoir dire non dans ta vie perso aussi?
Ouais.
Ouais,
ouais. Mais après, c'est venu bien plus tard, hein, le savoir dire non dans ma vie. Et après, je pense que c'est lié, mais prendre de la hauteur sur les choses aussi.
Ouais.
C'est un peu se détacher, prendre du recul et. Et j'ai vu, je crois que c'est un dessin qui... Tu vois, une personne qui prend une grande inspiration et je crois que la case d'après, sur le dessin d'après, elle souffle en disant « je m'en fous ». Et c'est hyper important. Et c'est une amie qui est kinésiologue. Et j'ai fait quelques séances de kinésiologie.
Oui.
On est adepte ou pas. Il faut être ouvert à ce genre de médecine. C'est la médecine douce. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je remercie Angélique pour ça, parce qu'elle m'a beaucoup accompagné à me prendre du recul. Et là où j'ai commencé à savoir dire non en photo, en tant qu'entrepreneur, prendre du recul, parce qu'elle m'a un peu accompagné là-dessus.
Mmh.
À un moment donné, il y a 6 mois de ça, dans ma vie, c'est pareil, c'était un peu compliqué, parce que je prenais tout à cœur, je voulais tout prendre sous ma responsabilité.
Mmh.
Enfin, j'avais le syndrome un peu du leader dans le couple et dans la vie familiale.
Mmh.
Et du coup, ça me menait à des situations où, un peu comme avec un client, tu dis oui à tout, tu veux... prendre les choses en main, tu vois, et puis au final, quand ça se passe pas bien,
ça te retombe dessus,
tout te retombe dessus, ou tu prends tout pour toi, tu vois.
Ouais.
Et du coup, aujourd'hui, j'apprends à non pas à m'en foutre, hein, mais j'apprends à prendre du recul, déjà à dire non. Alors, ça surprend un peu ses proches au début, hein, ils croient que tu fais la gueule, hein. Mais des fois, quand je sens tout le monde dit ah, ça serait bien qu'on s'organise un week-end, machin et tout, je dis oui, ça serait bien, et j'arrête de prendre les choses en main.
Ouais.
Ou alors, je dis non, mais de manière subtile, je dis ouais, mais ça va pas être, enfin, on va pas pouvoir faire ça, ou alors si on fait ça, il va falloir faire ça, ou il faut penser à ça.
Mm-hmm.
Puis les gens se disent ah, oui, c'est vrai, puis ben, finalement, personne prend le truc en main, et puis voilà, je m'économise psychologiquement, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais. La pression de malade qu'on se met, et putain, mais ça vaut pas le coup. C'est nocif, en fait, de se coller trop de pression, trop de machin, pas savoir dire non, s'embarquer dans plein de trucs.
Ouais. Porter la responsabilité de quelque chose qui te dépasse, au final.
Voilà, c'est ça. Donc, ouais, savoir dire non, c'est hyper important. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est surtout se protéger, en fait. Et ça veut pas dire être méchant par rapport aux autres, ou être, comment dire, des fois, on pourrait dire, ouais, t'es pas sociable ou t'es pas coopératif avec les gens. Non, c'est juste que, voilà, préserve-toi, en fait.
Ouais, t'as parlé aussi du fait de l'indépendance qui te faisait peur d'être indépendant, de devoir gérer seul, etc. Comment t'as surmonté cette peur-là et comment tu le vis aujourd'hui, le fait d'être indépendant ?
Alors, comment j'ai surmonté ça, c'est un peu compliqué, parce que même encore aujourd'hui, tu vois, je me pose beaucoup de questions. En fait, ce qui m'a aidé, c'est de voir que je remplissais mes objectifs malgré le Covid.
Ok.
Voilà. 2021 est une bonne année pour moi. J'ai fait... toi, on va parler de chiffres. Je suis totalement transparent.
Ouais.
Je m'étais dit, 2021, j'essaye de faire entre 15... Mon minimum, c'était 15 000 euros de chiffre d'affaires.
Okay.
Idéalement, ça serait cool d'avoir 20 000.
Ouais.
J'ai fait 28 000. J'étais hyper content de moi.
Ouais. Ouais.
Et du coup, là, 2022, mon objectif, c'est de faire au moins pareil. Parce que, en fait, si je veux commencer à vraiment vivre de la photo sans avoir à peiner... Alors déjà, il faut être régulier dans tes revenus chaque année.
Ouais.
Et, enfin, chaque année, je parle. Mais en plus de ça, il y a la pression de faire aussi bien, voire mieux que l'année d'avant. Et donc, cette année, je m'étais dit, bon, allez, je ne vais pas me coller un objectif supérieur à l'année d'avant, parce que j'étais déjà hyper content d'avoir fait mon objectif, voire plus même que donc en, 2021. Et donc, je m'étais dit, bah, allez, cette année, j'ai même dit 25 000, tu vois.
Ouais.
28 000, je rebaisse encore à 25 000,
tu vois. Ouais, ouais.
Et là, je me rends compte que normalement, si tout va bien, fin juin, je vais déjà atteindre mes 20 000.
Ah oui, d'accord.
Après, tu vois, pour parler chiffres transparents, mais après, ce qui me fait flipper, c'est que là, pour l'instant, tu vois, juillet, j'ai un truc de prévu et j'ai rien d'autre pour la suite de l'année. Et alors, comment on vit la peur de l'entrepreneuriat ? C'est que tu vois, là, jusqu'à présent, tout va super bien pour moi. Donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus rassuré qu'en 2019. Ouais, pour répondre à ta question, partie numéro 1. Partie numéro 2, comment je vis avec encore aujourd'hui ? Mais comme je te dis, j'ai rien de prévu pour la suite. Et ça me fait flipper.
Ça peut bien aller pendant 6 mois.
Voilà.
Mais le fait de ne pas savoir ce qui va se passer après,
voilà,
c'est
parce
toujours
que
quelque
j'ai
chose.
J'ai pas encore l'expérience et la... J'ai pas encore l'expérience d'un entrepreneur qui fait que t'inquiète pas Guillaume, ça fait 5 ans que c'est comme ça et pourtant ça fait 5 ans que tu fais minimum, allez on va dire 30 000, ça serait cool. Et tu fais minimum 30 000 de chiffre d'affaires tous les ans, alors arrête de flipper. Toi je l'ai pas encore ce recul, donc je flippe de la suite.
Et, et du coup quand tu t'es lancé en 2019, tu t'es appuyé que sur cette activité là, que sur ces revenus là
où en 2019 oui.
Ouais. Parce que là, aujourd'hui, tu as aussi une autre activité.
Ouais, parce qu'en fait, en 2020, alors à un moment donné, ça a un petit peu commencé à chauffer pour mes fesses. Alors, j'avais fait la distribution de journal communal de la Chapelle-sur-Erre. Un tout petit complément de revenus, mais tu vois, c'était histoire de pouvoir compléter les courses sans être dans le rouge.
Ouais.
Voilà, c'est aussi ça, la vie d'entrepreneur. Et c'est vrai que j'en parle vraiment... Sans me cacher, parce que en fait, petite parenthèse, mais un gros reproche que je fais, c'est que tous ceux qui sont entrepreneurs et qui cachent la face cachée de l'entrepreneuriat et qui disent pas les moments moins cool ou qui disent pas qu'ils ont une autre activité à côté, et ça m'insupporte parce que entrepreneur c'est pas évident et il faut pas se cacher quand on a besoin de prendre une activité complémentaire. Et puis moi, il y a eu le Covid en 2001, comme je disais tout à l'heure, et moi quand j'ai créé mon statut, je l'ai créé trop tôt, ce qui fait que j'ai eu des mois avec un chiffre d'affaires à zéro, et donc du coup, l'aide de Covid était basée sur le chiffre d'affaires précédent, et du coup, moi, il était à zéro, je ne pouvais pas faire pire que zéro. Donc pendant toute l'année 2020, j'avais le droit à aucune aide, zéro peanuts. Donc 2001, j'ai commencé, alors en plein confinement, j'ai commencé à m'inscrire dans de l'intérim où j'ai travaillé dans la presse de nuit. Et donc je faisais les commandes pour les buralistes. Et puis du jour au lendemain, comme quoi une vie était intéressante, du jour au lendemain, la boîte d'intérim m'appelle et me dit, écoute, Prestalis, pour les citer, vient d'avoir sa liquidation judiciaire. Donc ce soir, les portes sont fermées, ton contrat s'arrête. Voilà, il faut savoir que la presse en France était en pleine crise et Prestalis, voilà, un gros souci. Et là, mon intérim s'arrête du jour au lendemain, alors que j'avais zéro revenu.
Oui,
quoi.
C'est ça, parce que tu avais démissionné.
J'avais démissionné, strictement rien. Et donc là, un peu panique à bord. Et à côté de chez moi, j'habitais encore à la Chapelle-sur-Erre à ce moment-là, un CDD d'un agent technique, il cherche donc quelqu'un qui est là pour changer les ampoules, faire les petits bricoles, faire en sorte que le bâtiment se tient bien. Il cherchait ça dans un bâtiment pour des personnes qui accueille des personnes en situation de handicap. Pour le citer, qui s'appelle Personnage, c'est un établissement Personnage qui a été fondé par Lino Ventura. Et du coup, j'y suis rentré en CDD. Au début, c'était 2 semaines, ça se transforme en un mois, machin et tout. Puis, ne voyant pas la sortie de la crise, ils m'ont proposé un CDI, en temps partiel, je précise, que j'ai accepté. Couteau sous la gorge, je l'avoue. Et je m'étais dit, de toute façon, il me permet de continuer à être photographe. Et il m'a permis aussi, c'est très important, ça va faire un parallèle à notre discussion juste avant, il m'a permis de savoir dire non. Parce que j'étais à un moment où, quand j'ai repris l'activité, l'activité de photographe reprenait, je disais oui à des prestations à la Miro et tout ça. Donc t'es photographe et tu fais des prestations de merde payées au lance-pierre. Limite, t'es presque à perte. Ouais. Parce que si tu calcules tes frais et tout ça, mais bon, ça. Tu t'en fous, ça fait rentrer de l'argent et t'en as besoin. Et je disais oui parce que j'avais besoin de ça. Ben, le fait d'avoir eu ce CDI à temps partiel, ben, d'ailleurs, j'ai pu dire mes quatre vérités à certaines personnes, ça fait du bien. Okay. Parce que il jouait sur la précarité des photographes. Et le jour où j'ai pu sortir de cette précarité-là, grâce à ce temps partiel, j'ai pu leur dire au revoir. Et puis, il y a eu 2021, où j'étais en parallèle, j'ai continué avec eux. Et ce parallèle avec le métier de photographe, et ça a été très compliqué. En novembre, j'ai fait un burn-out, mais j'étais surmené parce que je donnais tout. Moi, quand je suis engagé dans un truc que j'aime, il faut savoir que le personnage, mon poste, je l'aime beaucoup. Parce que ça a du sens pour moi, de l'humain, tu aides des personnes en situation de handicap, j'y retrouve beaucoup de valeurs qui sont les miennes. Et donc, du coup, c'était très dur pour moi de gérer les deux. La charge mentale était très forte. Parce que du coup, je bossais chez moi en rentrant de personnage. Des fois, je me couchais à 23h. Les journées que j'avais pas à personnage et que j'avais en photo, elles étaient bien chargées. Des fois, je bossais les week-ends. Et donc là, du coup, cette année, je suis en passe d'arrêter parce que c'est pas vivable les deux. Après, il faut rendre à César ce qu'est à César. Personnage me permet, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir un projet immobilier. Parce que l'autre face aussi qui est négative quand on est indépendant, c'est que les banques te considèrent vraiment pas. Sont atroces avec les indépendants. Aujourd'hui, je crois pas qu'il existe de fonds de garantie pour emprunter quand t'es indépendant. Un petit message à ceux qui veulent créer ça, ça serait super. Mais du coup, voilà. Donc du coup, j'ai toujours ce CDI, mais je vais le quitter bientôt et priorité à ma passion.
Et quel lien tu fais, enfin, quel serait un peu ton, je sais pas, ton fil rouge entre quand t'étais à la SNCF, là à personnage et dans ton activité de photographe?
Ah, mais c'est contact, c'est clairement le contact avec les gens.
Le contact avec les gens.
C'est clairement le contact. Et au-delà de ça, je crois que c'est rendre service. Voilà. Et tu vois, c'est un peu le, je sais pas si ça existe, le syndrome de rendre service. Quand je te disais en famille, par exemple. Maintenant, je prends du recul et je sais un peu dire non. Parce qu'en fait, j'avais toujours envie de rendre service. Donc, quand quelqu'un avait envie d'organiser un week-end, quand il y avait toujours des trucs qui se profilaient, j'avais toujours envie d'être celui qui... non pas qui mène les choses. Je voulais pas être celui qui a fait le truc, donc on le remercie, tu vois. Je voulais être celui qui rend service en... je vois bien que tout le monde a envie de ça, mais personne veut le faire. Donc, du coup, je vais le faire, tu vois. Et c'est la notion de rendre service que j'aime beaucoup. Et quand je fais de la photo, c'est clairement ça, en fait. C'est vraiment rendre service à la personne qui veut un book photo, qui veut communiquer. Et même au-delà de ça, la rendre fière d'elle. C'est valorisant quand une personne se dit « Ah, je me voyais pas comme ça. Ou, ah, mais je suis belle en photo. » Ou « Ah, ça se passe mieux que prévu. »
Tu m'as parlé aussi en off de certaines personnes qui lâchaient des émotions quand elles étaient prises en photo.
Oui, parce que en fait, j'ai bien conscience, et je dois bien avouer que j'aime bien cet aspect-là, mais qu'une séance de portrait, c'est un peu une séance de psycho. Logique, psychologue, parce qu'en fait, on est confronté à son image, et souvent, c'est même pas souvent, c'est toujours notre photo, c'est un peu l'image de soi à l'instant T, mais c'est aussi l'image de ce qu'on a vécu par le passé. Dernièrement, j'ai une personne qui a beaucoup pleuré. Je pense que c'est parce qu'elle a pris beaucoup de poids en peu de temps, et le constat photographique a été très dur pour elle à encaisser. Et pour autant, c'est une très belle personne, en fait. La beauté, c'est pas les canons de beauté qu'on voit dans les défis de mode et tout ça. Moi, souvent, il y a plein de personnes qui se trouvent moches, alors qu'en fait, elles sont belles. Et c'est fou de chercher les défauts et de pas chercher la beauté. Hein. Et le but des shootings avec moi, c'est justement que cette thérapie opère, on va dire, et que la personne se trouve belle en photo. Et ma foi, ça va. J'ai pas trop de soucis avec ça. C'est beaucoup de psychologie, mais on y arrive. Enfin, y a des personnes qui vraiment ressortent de là avec une autre image d'elles-mêmes. C'est parfois compliqué. Parce que c'est vrai que là... Voilà, ça peut être une prise de poids, ça peut être une perte de poids aussi. Ça peut être des cicatrices. Ça peut être une perte de cheveux liée à un traitement d'une maladie. Il y a beaucoup de stigmates qu'on voit sur en photo, en fait.
En photo, qui ressortent.
Et qui ressortent. Et c'est intéressant. Et puis, ce qui est surtout valorisant, c'est de faire constater à la personne qu'elle est belle quand même. Et de lui prouver qu'elle est belle. Qu'elle reprenne goût à son image. Ça, pour moi, c'est le plus beau des services. Puis après, on va revenir à le pourquoi elle m'avait appelé à la base, vu que en général je vais affaire à des pros. Mmh. Bah, ça lui rend service aussi d'avoir des belles images pour communiquer pour son entreprise.
Oui, bien sûr,
donc ça, je suis content après quand je vois qu'elle a mis sa photo sur tous les réseaux, les flyers et autres. C'est gratifiant.
Oui.
Mais après, ce que les gens voient pas en off, c'est ce qui reste entre moi et la personne. Mmh. J'ai vu le sourire qu'elle a eu en se voyant en photo et de se dire qu'elle s'est réconciliée peut-être avec son image. Mmh. Ça a pas de prix et ça a pas de... Enfin, c'est presque un secret entre nous, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est hyper valorisant, quoi.
Comment tu vois, là, aujourd'hui, évoluer ton activité dans les prochaines années ?
Eh ben, je la vois évoluer, alors, bizarrement, un peu moins avec les entreprises. J'aime beaucoup les entreprises. Hein. Dernièrement, il y a eu beaucoup de shootings où j'ai pris un pied énorme. Mais par contre, il y a un truc que j'aime énormément en ce moment, c'est développer ma passion... transmettre ma passion sur la lecture d'images, les analyses d'images. Voilà, parce que je me rends compte que... je me rends compte, ça fait un peu nier, hein. Ça y est, on est en 2022, le gars il se rend compte qu'on vit dans une société d'images. Mais en fait, je sais pas combien de milliers d'images on voit par jour entre Instagram, la télé, les journaux, les billets de banque, il y a une image dessus. Enfin voilà, on voit des milliers et des milliers d'images par semaine, et pour autant on prend jamais le temps de les analyser. Et pourtant, ceux qui créent les images, ils ont bien joué leur coup parce qu'il y a des messages qui sont passés. Et nous, on les lit pas, on les lit mais de manière inconsciente. Mmh. On prend pas le soin de bien analyser tout ce qui a été fait. Je veux vraiment me diriger vers ça en fait.
Okay.
C'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube où je parle d'analyse d'images qui sont plus ou moins des images d'actualité. Alors souvent, c'est des images d'actualité, mais parfois, c'est des images de jaquettes de jeux vidéo, des images de films. Ça peut être des images faites par un photographe d'il y a 70 ans, des années 70. Et voilà, je veux vraiment transmettre cette passion de l'image, de la lecture d'image avec la lecture avec
un S. C'est une sorte d'éducation à la lecture d'image.
Ouais, parce qu'en fait, à l'école, on apprend à lire un livre, on n'apprend pas à lire une image. Et pourtant, aujourd'hui, on est plus dans une société d'image que de livres. Il y a un maître de la communication en ce moment. Et je dis pas ça parce que, admettons, je l'aime ou je l'aime pas, hein, mais il y a un maître de la communication, c'est Emmanuel Macron, qui a fait appel à une photographe, pas n'importe laquelle, c'est une façon de prendre les photos qui est... Et quand on regarde les images qui sont communiquées de Macron, il n'y en a aucune qui est laissée par hasard. Mais il n'y a pas que lui, hein, je veux dire, il y a plein de photos qui sont absolument dingues. Pour les photos artistiques, type photo reportage, parce que c'est pas forcément artistique, hein, c'est un peu, des fois, c'est un peu dur à avoir comme photo, mais il y a Sebastião Salgado, un grand photographe qui est toujours en vie, c'est une légende de la photographie, du noir et blanc. Toutes ces photos sont juste dingues. C'est impossible de juste dire, ah ouais, la photo est bien. Bah, tu t'arrêtes si la photo te frappe, essaye de passer 5 minutes à comprendre le pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui t'a frappé ? Faire une analyse technique, contextuelle, colorimétrique et tout, ça paraît vachement technique, mais ça peut prendre juste 5 minutes et t'aider à comprendre l'image. Et surtout, en fait, je trouve que les gens regardent surtout le premier degré des photos et ils lisent pas les autres sens d'une photo. Et en fait, c'est ça que j'apprends en école, à lire et interpréter tous les sens d'une photo, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est même pas moi qui l'ai inventé, je crois que c'est Confucius qui a dit « une image vaut 1000 mots ». Il suffit juste d'appliquer ça. Et je donne les outils pour le faire, en vidéo sur YouTube et en podcast un petit peu de manière différente. C'est-à-dire qu'en podcast, je me fais le lecteur de l'histoire que raconte la photo. Donc après, j'invite les gens, s'ils veulent bien aller voir mon podcast.
Mais oui.
En fait, je regarde la photo et c'est purement de l'interprétation. Et le but, c'est que les gens se disent, déjà, ils ont envie, vu que c'est un podcast, d'aller voir la photo. Et que quand ils vont la voir, j'ai envie qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec moi. Parce que j'ai envie qu'ils aient leur propre histoire, analyse de l'image, c'est le but. Et j'ai envie qu'il y en ait aussi qui soient d'accord, tu vois. Mais histoire que je ne sois pas seul dans mon analyse, tu vois. Mais j'ai envie de passionner les gens sur la lecture d'image. Voilà.
Okay. Transmettre ta passion.
Transmettre, vraiment. Ouais. Et je veux vraiment... aller plus loin dans cette culture. J'ai réussi à mettre, grâce à Cyril Lefebvre, j'ai réussi à mettre un pied dans une école avec cet enseignement-là, qui n'existait pas.
Ouais.
Je suis tellement heureux de l'avoir fait, et ça va être multiplié par 2 l'année prochaine. Ouais, normalement, je touche du bois. Je veux rentrer dans d'autres écoles comme ça. Parce que je veux aller plus loin là-dedans. Okay. Je veux développer ma chaîne YouTube, le podcast, pourquoi pas. Je veux vraiment m'axer vachement là-dessus. Et puis, j'ai adoré le côté... la relation qu'il y a dans un shooting. Du coup, récemment, j'ai fait des portraits un peu plus artistiques que professionnels. Et j'aimerais bien, plus tard, que ça soit plutôt des particuliers qui viennent vers moi et qui me disent... J'ai besoin d'un espèce de shooting, une thérapie ou pas, j'ai besoin de m'éclater en photo. Et du coup, on va dans mon studio et on s'éclate. J'ai fumigène, j'ai des lumières.
Trop bien.
On peut s'éclater avec différentes configurations. Il n'y a pas longtemps, je l'ai fait avec le fils d'un client, 12 ans. Et là, j'ai eu un retour, il adore les photos. J'attends juste, je prie pour avoir l'autorisation de les diffuser. Je veux en fait propager de l'artistique dans les photos. Voilà, c'est plus tard ce que je veux, ce que je rêve d'aller, c'est vers là. J'aimerais vraiment aller plutôt sur la culture de la photo. Et le bienfait de la photo, une séance photo, plus vers le côté psychologique de la photo finalement, qui m'intéresse énormément.
Ah bah trop bien. Où est-ce qu'on peut te suivre sur, donc t'as parlé de YouTube, du podcast?
Eh bah alors YouTube avec grand plaisir, aidez-moi à développer la chaîne, parce que ok, il y en a qui vont pas aimer ce que je fais, mais je pense qu'il y a plein de gens que ça peut intéresser, mais ils le savent pas que j'existe encore, donc voilà.
C'est Guillaume Chouéka.
Guillaume Chouéka, il suffit de taper Guillaume Chouéka sur YouTube, sur Instagram aussi. Mes photos sur Instagram, il y en a quelques-unes qui sont pro, mais c'est surtout des photos où je m'éclate. Je vous rassure, c'est pas trop personnel ce que je publie non plus. Enfin voilà, LinkedIn et puis du coup sur Spotify, les trois grandes plateformes de podcast.
Et ton podcast s'appelle aussi Guillaume Chouéka.
Je me suis pas embêté.
De toute façon, je remettrai tous les liens dans
avec plaisir,
le podcast. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une devise ou une vision de la vie, tu vois, qui représente toi ta vision?
N'aie pas de regrets. N'ai pas de regrets, parce qu'en fait, c'est, si j'en suis là, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis parlé comme ça. N'ai pas de regrets. Voilà.
Ok, on va terminer sur ça alors.
Ok.
Merci Guillaume.
Merci à toi.
Vous pouvez retrouver Guillaume sur Instagram, sur LinkedIn, mais aussi sur son podcast, sa chaîne YouTube ou son site internet. Tous les liens sont dans la description de ce podcast. Et si cet épisode vous a plu et vous a inspiré, n'hésitez pas à le dire et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @projet-emoi sur Instagram. Et si vous aussi, vous voulez prendre votre nouveau départ, prenez rendez-vous avec moi en me contactant via mon site internet projetemoi.fr/nouveau-départ. Allez, à très vite !